On est sur une semaine internationale, l'actualité n'est pas débordante. Et on s'est dit, on passe sur YouTube, on va faire aussi des petits formats voilà, qui vous permettront aussi de réagir. Vous aussi, vous allez pouvoir donner vos plus grosses erreurs de jugement.
Ouais, n'hésitez pas dans les commentaires, parce qu'on va partir. On voulait le faire cette semaine, mais comme on n'a pas eu d'émission la semaine dernière, on ne l'a pas fait.
Ouais.
On va reprendre vos commentaires et souvent faire un débrief en début d'émission pour discuter avec vous de ce que vous nous dites. Donc n'hésitez pas à venir argumenter surtout, pas juste dire vous avez tort, vous êtes des pipes.
Donc le principe est simple, on va vous donner nos trois plus grosses erreurs de jugement. De journalistes ou non d'ailleurs, parce que parfois on n'était pas encore en fonction, entre guillemets. Mais voilà, c'est des joueurs soit dont on n'a pas décelé le potentiel tout de suite, donc on s'est gouré, soit dont le potentiel était très très élevé, où on s'est dit non mais ça ne durera pas. Et, voilà. Maxime, trois erreurs de jugement, on en fait une chacun peut-être.
Vas-y, allez, c'est parti. Moi, je commence par un joueur qui est actuellement en Ligue 1, qui est à Metz, qui s'appelle Benjamin Stambouli.
Ouais. Il nous avait cassé la tête avec Stambouli, Maxime.
J'étais persuadé que Benjamin Stambouli ferait une immense carrière et qu'il serait international. Ah, il a 14 sélections en espoir, donc généralement, quand tu es établi comme ça en espoir, la marche est derrière. Je me souviens de ces années à Montpellier, évidemment, il y a l'année du titre, et je me souviens d'une ou deux actions où je me dis, purée, il est élégant, il a du ballon. Et ça on ne peut pas lui retirer. Il est élégant, il a du ballon. Je crois que c'était un Montpellier-Ajaccio, d'ailleurs, où je le vois remonter le terrain. Je me dis, qu'est-ce que je vois là? Je dis, ça ressemble à Laurent Blanc.
Ouais. Ah ouais, c'est pas tout à fait
la même
carrière.
Et je me souviens de l'avoir rencontré quand il était en espoir, discuter avec lui. En
petit
plus,
crush.
Non, mais je trouvais vraiment qu'il avait, il cochait toutes les cases. Et puis après, et ben voilà, il est parti à Tottenham, ce que j'avoue que j'avais complètement oublié. Ouais. Il a joué, je crois, 12 matchs, des choses comme ça. Il a été rapatrié au PSG.
En fait, c'est
pas le bon moment, faut pas être au PSG à ce moment-là.
Tu veux mon avis sur Stambouli? De loin, parce que j'ai pas suivi. Trop gentil, trop tendre.
Ouais, peut-être.
Pas tueur. Tu vois, c'est effectivement le mec un peu élégant et tout, mais pas fait pour les grands clubs.
Et c'est marrant, ça fait partie de ces joueurs que je défendais dans la rédaction corps et âme, de se dire, mais ce type-là, il a quelque chose.
C'était une obsession.
Il a un truc, il est vraiment fort, il va réussir. Et encore une fois, je voyais, alors évidemment, le parallèle avec Montpellier, des fois, il joue un peu derrière Montpellier. Donc je voyais, je me dis, le milieu de terrain qui peut jouer derrière, qui a un peu de ballon, qui remonte le ballon, je me dis, je vais pas dire que ça allait devenir Laurent Blanc, mais je trouvais qu'il y avait une petite filiation. Laurent Blanc l'a eu sous ses ordres. Non, il l'a pas eu sous ses ordres, j'ai une bêtise. Mais bon, bref, ça, je me suis planté.
Moi, ma plus grosse erreur, et c'est aussi un joueur qui joue en Ligue 1 aujourd'hui, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Quand je l'ai vu débuter, il appartenait à l'AC Milan, tout le monde a oublié, mais il a fait quelques mois à Lille, quelques mois à Monaco, puis quelques mois à Saint-Etienne. 6 mois, 1 an à chaque fois. Et techniquement, c'était catastrophique. C'est-à-dire que Aubameyang, ses premiers matchs en Ligue 1, c'est du tir au pigeon. Mais vraiment du tir au pigeon. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles compliqués, trop longs, vraiment les pieds carrés. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Sur ses 46 premiers matchs, je crois qu'il marque 6 buts en Ligue 1. Non, mais c'est dramatique. Et en plus, il n'a pas 16 ans, quoi. C'est-à-dire qu'il est jeune, il arrive. Mais tu te dis, à Dijon, il marque 6 buts en Ligue 2. Bon. À Lille, ça ne marche pas. À Monaco, ça ne marche pas. Et les 6 premiers mois à Saint-Etienne, il met 2 buts, je me souviens, il est prêté 6 mois, ça ne marche pas. Fait est que ça ne marche pas. Donc à un moment, tu te dis, OK, il fera sa petite carrière en Ligue 2. L'AC Milan n'en voulait plus, il ne voulait plus en entendre parler d'Aubameyang. Donc je m'étais dit, mais OK, je comprends pourquoi. Si on m'avait dit, si on m'avait dit que ce mec-là jouerait à Dortmund, à Arsenal, à Barcelone, à Marseille.
À Marseille.
Ouais, à Marseille. Mais il aurait une carrière absolument gigantesque et qui serait un des meilleurs attaquants sur les 10, 15 dernières années, un des meilleurs attaquants du monde. Franchement, j'y aurais pas cru. Après, on peut l'expliquer, c'est-à-dire que il a failli lui aussi sombrer dans cette politique de prêt où un grand club t'achète, te prête 6 mois. Et on voit qu'avec lui, ça marchait pas. C'est un mec qui avait besoin de stabilité et de constance. Il avait besoin qu'un entraîneur dise « Ok, tiens, voilà les clés. On s'en fout sur ce match-là, ce qui compte. On te prend pour 1, 2, 3 ans. » Il a failli se plomber comme d'autres se sont plombés et il doit sa carrière. Et là, je dis chapeau à Christophe Galtier qui a décelé dans ce prêt de 6 mois à Saint-Etienne le talent, le potentiel d'un mec. Moi, je regardais les matchs effectivement derrière ma télé, d'un peu loin, je me disais, c'est pas possible, pourquoi Saint-Etienne fonce sur ce mec-là? Après, moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait aussi un jeu avec l'AC Milan qui voulait prendre Ruffier, Saint-Etienne qui aurait dit, écoutez, ne prenez pas Ruffier, on vous prend Aubameyang, pour vous dire à quel point, à cette époque-là, Aubameyang, personne n'en voulait. Donc, chapeau à Galtier et chapeau surtout à Aubameyang. Quant à moi, honte à moi.
Ça me fait penser à des joueurs gâchés par les politiques de prêt. Michy Batshuayi. qui est très bon, mais à un moment, bah, il se fait prêter partout. Et c'est marrant, mais c'est marrant, ces joueurs. En fait, il faut accepter les maturations lentes.
Mais oui, et puis qu'un joueur, qu'un attaquant en plus, ait besoin de confiance et qu'on ne lui dise pas, là, ton avenir, il joue sur les trois prochains matchs. Évidemment qu'il va frapper en l'air et qu'il va frapper dans la tribune et qu'il va faire des morts.
Et pas oublier qu'un des deux meilleurs joueurs de l'histoire du foot français a eu une maturation lente et qu'il faut des fois accepter de ne pas juger à boule pour point. Alors moi, mon deuxième joueur, c'est sur une temporalité assez courte de 1 an et demi, on va dire. Moi, j'étais en poste, je débutais ma carrière, je commençais à suivre l'équipe de France et j'arrive, en fait, après mon premier Euro couvert, Euro 2004, vous savez ce qui se passe, Zidane s'en va, tout le monde s'en va, Lizarazu s'en va, etc. Là, on dit que c'est la fin, en fait, des 98.
Et donc, là, tu as le successeur de Zizou, du coup.
Pires va quitter l'équipe de France contre son gré un jour de Il Ferro et France, où ça se passe sur le parking avec Raymond Domenech, ça se passe très mal. Et on sait que Raymond Domenech veut faire table rase, etc. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Raymond Domenech, après, je me souviens du premier match des éliminatoires au Stade de France, un France-Israël, avec la troisième couronne fermée, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne, à côté gauche, Evra Roten, qui avait moyennement marché, mais bon, bref, il manque quelque chose. Et bien, un moment, au rassemblement d'après, il lance Vikash Dorasso.
Et là, tu te dis, ça y est, on a le successeur d'Izou.
Il faut que vous retrouviez les comptes rendus ou les notes de l'époque. Vikash Dorasso, qui joue contre notamment la Suède, je crois qu'il y a la Suisse, etc., où il fait deux matchs, mais vraiment, où le type au milieu de terrain, il bonifie un milieu de terrain qui n'a plus de créatif parce qu'il n'y a plus Pires, il n'y a plus Zidane. Et le type, il va à des roulettes. Il est vraiment... J'aimerais bien lui en parler pour lui demander si ce n'est pas le moment où il se sent le plus fort, où il se dit, mais là, attention, ça va être moi. Et en fait, on le voit un peu gros comme une maison parce que, encore une fois, il y a ce vide. Malheureusement pour lui, peut-être heureusement pour la France, il y en a un qui revient, Zidane. Mais même à ce moment-là, je me dis, bah, ça peut le faire parce que...
Ah, il peut peut-être mettre Zidane sur le banc.
Non, France-Côte d'Ivoire, le match du 17 août 2005
à Montpellier,
3-0 contre Côte d'Ivoire, le retour de Zidane, eh ben, il est sur le terrain, il joue tout le match. Wow. Donc dans un rôle un peu plus reculé. Et là, on se dit, bon, ben, en plus, t'as un milieu de terrain qui a du ballon, un joueur qui est plutôt...
Dorasso Zidane, ça nous amène à
techniquement,
la...
Et je me dis, deuxième titre. Pareil. C'est pas
après,
mal.
Il n'a pas eu une carrière horrible non plus.
Non, je ne suis pas en train de dire ça. Non, mais moi, je
sauf
parle juste
toi,
de ce moment-là.
Voyais...
Et puis, Coupe du Monde 2006, il joue 8 minutes.
C'est terminé.
Il sort son film, The Substitute. Et souvenez-vous, je pense son action marquante de la Coupe du Monde, c'est France-Suisse. Je crois qu'il rentre en jeu. Il tire à côté, il est à deux doigts d'ouvrir le score. Et peut-être ça aurait changé. Mais vraiment, je pensais à l'automne et à l'hiver 2004-2005 que... non pas qu'on avait un successeur Zidane tel qu'on pouvait penser comme Gourcuff, mais que la solution au problème de l'équipe de France était là. Or, je pense que les problèmes de l'équipe de France, ils dépassaient lui, c'était plus ce qu'il y avait sur le banc.
Moi, il y a un joueur aussi en équipe de France où je me suis dit, là, c'est une évidence, et c'est la pièce du puzzle qui manque à l'équipe de France en 2018 à la Coupe du Monde. Cet homme, il s'appelle Thomas Lemar. Il fait un match contre les Pays-Bas en août 2017, si je ne dis pas de bêtises, où il met deux buts.
Ouais. J'y étais.
Et ensuite
le jour du transfert de... Non, tu n'étais pas, tu faisais le mercato, toi. C'est le jour du transfert de Mbappé.
Ouais,
le
31 août. Et en mars, contre la Russie.
Ouais.
C'est la Russie
Oui, la Russie.
En mars 2018.
Il y a Colombie et Russie.
Non, Colombie. C'est contre la Colombie. En mars 2018, où il est monstrueux. Et c'est toute une période de l'équipe de France où on se dit, mais qui va jouer à gauche? À droite, on a à peu près, c'est Kylian Mbappé.
Ouais.
Dans l'axe, on a à peu près, hein, c'est Giroud-Griezmann. À gauche, on n'a personne. Et à ce moment-là, je me dis, bon, ben voilà, il résout tous les problèmes. Il sort d'une saison fantastique avec l'AS Monaco, qui restera sa meilleure saison ever, hein, enfin, sauf si maintenant il explose, mais bon, qui restera sa meilleure saison. Et ça fait partie, on en parlait tout à l'heure, de ces joueurs qui grossissent avec un collectif monstrueux, mais quand tu les extrais de ce collectif-là, eh ben c'est beaucoup plus compliqué. Et Thomas Lemar, je pense qu'il a manqué peut-être un peu de force, un peu de caractère. Mais il est parti à l'Atlético dans un club qui mettait pas en valeur ses qualités. Il y a eu des blessures. Il est resté sans doute un peu trop longtemps et il a fini par sombrer. Et même à la Coupe du Monde 2018, finalement, Deschamps lui préfère Blaise Matuidi. Alors que moi, pendant longtemps, j'ai milité pour Lemar et que je pensais qu'on allait être champion du monde. Avec Lemar titulaire, ils ont été champions du monde avec Lemar remplaçant.
Alors que moi, j'ai défendu Matuidi dès le deuxième match. Vous pouvez retrouver les vidéos.
Voilà, il ne peut pas s'empêcher. Mais voilà, avec Lemar, je me suis bien, bien trompé.
Mais
je pensais qu'il aurait l'ailier gauche de l'équipe.
C'est ce qui lui a manqué, je pense, d'avoir le caractère d'un Florent Malouda.
Oui, c'est vrai, il a manqué de caractère.
Voilà, un caractère à la Malouda, le mec qui ne baisse pas pavillon dès qu'on lui dit quelque chose.
Le talent, je suis persuadé qu'il l'avait quand même.
Ah oui, super pied gauche. Et comme tu dis, ce match face aux Pays-Bas, c'est.
Et puis il défend.
Oui, il avait la qualité. Et c'est fou d'ailleurs de. Comment
ses 10 premières sélections, il met 3 buts en jouant des bouts de match.
Ouais. Et comment tu disparais à un moment alors que tu... Ouais. Alors, c'est l'histoire du foot, évidemment. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, mais... Alors moi, il y a une grande disparue.
Ah ouais, elle est bien disparue, elle. Hein.
Mais moi, je me l'explique très bien. Alors, j'ai un défaut, il faut bien en avoir un.
Ah, oh, j'en vois pas qu'un.
C'est que, quelle que soit la compétition, et je le reconnais, je vois toujours l'Allemagne plus forte qu'elle ne l'est.
Mais c'est une obsession. C'est...
Mais parce que, et ça, je l'explique très, très facilement.
Parce que t'es né avec ça.
Je suis né avec ça, c'est-à-dire que moi, j'ai connu...
Et t'as grandi avec ça.
J'étais pas né quand l'Allemagne a gagné 74. Mais il faut savoir que l'Allemagne des années 70, c'est Euro 72, 74 Coupe du Monde, finale Euro 76, victoire à l'Euro 80, la RFA. Et puis derrière, c'est finale Coupe du Monde 82, finale Coupe du Monde 86, victoire en 90, finale de l'Euro 92, quart de finale, ils se plantent en 96 et... ils se plantent pas en 96, ils gagnent en
96.
Ils se plantent un peu Coupe du Monde 94 et 98. Donc pour moi, l'Allemagne...
Finale 2002.
Voilà. C'est toujours là.
Demi-finale 2006.
Et c'est vrai que je n'arrive toujours pas à faire mon deuil de me dire que l'Allemagne va toujours réussir. Et à chaque, je le reconnais, à chaque compétition, j'ai un problème avec ça, c'est de penser que l'Allemagne, méfiez-vous des Allemands, parce que ceci, parce que cela. Mais en fait, le problème, c'est que en fait, la bascule, c'est quoi? C'est 2010, parce que vous allez me dire, 2010, ils font une bonne Coupe du Monde, ils vont en demi. Mais c'est une Allemagne qui a changé.
Balak, 2014, c'est pas mal aussi.
Oui, mais 2010, oui, mais le début de 2010, c'est-à-dire qu'ils changent complètement de paradigme.
L'ADN
a changé. Alors 2014, évidemment.
2006, même dès 2006. Dès la Coupe du Monde chez eux.
Ils font demi-finale quand même.
Oui, mais ils changent aussi leur ADN.
Oui, ils changent, voilà. Et je pense que, et j'ai un problème, je le reconnais avec ça, c'est que je ne crois jamais, comme en 2018, que l'Allemagne va se faire sortir au premier tour. Ta boîte à la dernière minute, je me dis non, c'est pas possible.
Et nous, avant chaque début de compétition, on lui dit la même chose, je lui dis, mais enfin, Maxime. Regarde le 11 là, regarde, prends joueur par joueur,
non,
c'est minable. On lui a dit ça en 2018, on lui a dit ça en 2021.
Je défends toujours.
On lui a dit ça en 2022. Et mais non, mais c'est l'Allemagne, ça passera, ça passera, ça fera demi-finale. Ça.
Parce que j'ai une vision très collective du football.
Bah ouais, mais là...
Et là, ça dépasse, je le reconnais. Et à l'inverse, alors là, pour le coup, les 20 dernières années me donnent assez raison, je vois toujours le Brésil... Plus moche qu'il ne l'est.
Alors que moi, je le vois plutôt plus beau qu'il ne l'est.
Donc, c'est un pardon. Mais je tiens à dire un truc.
Ah.
Je l'ai appris, mais vraiment en direct pour l'émission, parce que là, j'ai mon ordinateur. L'Allemagne vient de faire son retour dans le top 10 de la FIFA.
C'est pas perdu.
Donc, je pense que c'est pas perdu pour 2026.
Pas perdu. Et moi, je termine avec un joueur. Là, c'est honte à moi aussi. J'y croyais pas à ses débuts avec Marseille. C'est Stem Mandanda. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu un gamin de 22 ans du Havre, devenir un peu par accident titulaire à l'OM parce que Carrasco c'était... En fait, il arrive, Carrasco se pète, Maxime, je parle sous ton contrôle. Il se pète et il devient titulaire.
Un match à Caen qui est très réussi déjà.
22 ans.
Ouais.
Il vient du Havre. Il a foiré un essai à Aston Villa. Je me dis, le gamin là, il va exploser en vol parce qu'il n'y a pas plus compliqué, je pense, à ce moment-là en France que d'être gardien de l'OM. Gardien du PSG, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu es sur le poste le plus exposé du club le plus exposé de France. Et donc, je n'ai jamais cru, enfin, à ses débuts, il m'a très vite fait mentir et je me suis très vite rendu compte qu'on avait, au bout d'une saison, qu'on avait quelqu'un qui avait un caractère qui dépassait un peu mes préjugés. Je me suis très vite rendu compte de ça, mais au départ, je n'y croyais absolument pas. Et même sur ses premiers matchs réussis, je me suis dit, ça va finir par craquer Mandanda parce que, en fait, c'était pas dans mon logiciel, ça ne pouvait pas réussir comme ça à Marseille. Et il a prouvé le contraire, et puis il a fait une carrière de 25 ans, il a été champion du monde, etc. Donc, mais je le voyais complètement s'écrouler au bout de quelques matchs. Donc chapeau Mandanda, chapeau Aubameyang et chapeau Lemar.
Ouais.
Enfin non, pas chapeau Lemar. Lemar, j'y croyais fort. Donc c'est plutôt le contraire.
Et Mandanda a fait, avec un caractère complètement différent, il a réussi ce que Barthez a réussi 15 ans avant. C'est-à-dire il arrive dans un club qui est costaud et direct, il s'impose. Alors l'un, c'était par l'insouciance. L'autre, c'était par le talent et le caractère.
À 22 ans, t'imagines.
Ouais, mais c'est vrai que dès ce match-là, quand tu dis... Oh, il a quelque chose, et puis finalement il a tenu. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a eu des hauts et des bas à l'OM, mais ses bas sont arrivés quand même beaucoup plus tard, donc il a eu le temps de s'installer.
Ça reste très honnête quand même.
Ah oui, ça reste très 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 honnête.
On passe au quiz, Maxime, mais en tout cas je suis content parce que Maxime qui reconnaît ses erreurs.
Bon, je le fais tout le temps,
pas souvent.
Mais il n'y en a pas beaucoup, c'est ça.
Vous avez de la chance, on terminera juste sur un.
Ah ouais,
dernier petit truc. Parce que là, on dit ce qui n'a pas marché. Dans cette salle, il n'y en a qu'un qui voyait la France championne du monde en 2018. Vous savez qui c'est, mais ça, je vous le dis à chaque émission. Donc voilà, il y a deux, trois petites erreurs. J'ai mis un peu de temps à trouver effectivement les mecs.
Mais bon. Le 16 juillet, il était sur le bus impérial avec Ben Alla.
Donc voilà, il y a un mec qui, dès 2014, savait qui allait être champion du monde en 2018. Ce mec, c'est moi.
Tous les deux ans, il dit ça.
Ce mec, c'est moi.
2021, l'Euro. Ouais. On va le cartonner, bam, bam, bam.
Pas du tout. Pas du tout, non, pas du tout. Je l'ai dit une fois, on a été champion du monde.